Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast, disponible à l'adresse safiagourari.fr/guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Je vous retrouve aujourd'hui avec un épisode où on va parler de création de contenu à la fois sur Instagram et sur YouTube avec Manon, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Daring Tia. Alors avec Manon, on s'est rencontrés il y a bientôt 5 ans, vers 2016. En fait, quand je me suis lancée sur le web, je pense qu'on s'est lancé à peu près en même temps avec nos blogs et nos Instagram. Et donc c'est une personne avec qui j'ai gardé contact et qui est mon amie. Hein. Vous savez, l'un des facteurs, l'une des validations ultimes de l'amitié, c'est de partir en voyage avec ses amis. Si quand vous revenez, vous êtes encore amis, c'est que c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est votre vrai pote et c'est le cas avec Manon. On est déjà parti en vacances ensemble et on est revenu encore amis. Donc voilà. Donc c'est une personne j'ai suivi son parcours en fait depuis tout ce temps. On s'est suivi mutuellement, on a pris des trajectoires qui sont totalement différentes et pour autant qui sont quand même ultra, ultra intéressantes. Donc j'avais envie de la faire venir aujourd'hui pour vous parler un peu des coulisses de l'influence, entre guillemets. Je sais qu'elle aime pas ce terme, mais c'est un peu son domaine, son métier, et aussi de YouTube, qui est une plateforme qu'on n'aborde pas forcément beaucoup ici, simplement parce que je ne connais pas cette plateforme et j'ai pas vraiment énormément de références qu'il utilise pour le business, mais en tout cas Manon, c'est la plateforme principale qui lui permet de générer des revenus, de partager son opinion et son contenu de manière régulière. Donc j'ai estimé que c'était intéressant d'avoir son retour là-dessus. Dans cet épisode, on parle de sa carrière de journaliste, on parle de création de contenu sur Instagram et sur YouTube, de collaboration avec les marques, on parle de rémunération, et ce qui est bien avec Manon, c'est qu'elle partage des chiffres sans filtre, donc nous, ça nous donne un aperçu concret de ce qui se passe en coulisses, et on parle également de son organisation et de sa manière de travailler. Donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous laisse tout de suite avec notre échange. Salut Manon, bienvenue dans Build Yourself. Je vais commencer avec une petite histoire. Manon était en fait la première personne que j'ai interviewée pour mon podcast, mais comme c'était la première interview et je n'étais absolument pas préparée, la qualité audio était verdict. Mais cette fois-ci, c'est bon. Bienvenue Manon.
Merci Safia, il y a des débuts à tout, donc c'est pas grave, on est de retour, c'est le principal.
Exactement, au moins cette fois c'est fait. Bah alors Manon, t'es youtubeuse, est-ce que tu te définis comme influenceuse ?
Non, parce que pour moi, c'est pas un métier. C'est quelque chose qui se passe parce qu'on influence les gens, mais pour moi c'est toujours créatrice de contenu, parce que sinon je trouve c'est un peu bizarre de me dire que je suis payée tous les mois pour juste influencer des gens.
Ouais, c'est vrai, puis en plus ça a une connotation un peu négative, mais bon, ok. Donc tu es youtubeuse et créatrice de contenu, mais alors avant ça t'as fait une fac de droit, t'as fait une licence LEA aussi, puis du journalisme, et finalement j'ai envie de te demander pourquoi t'as pas continué avec le journalisme.
Alors c'est le truc tout bête d'aujourd'hui. La presse écrite, elle est en train de se faire manger doucement mais sûrement par tout ce qui est le web, que ce soit la presse sur le web ou tous les métiers justement du digital. Hein. Mais ce qui fait qu'à ce moment-là, bah, t'avais pas de contrat en CDI. C'était uniquement du freelance, puis du freelance, puis du freelance. Et au moment où t'as envie de commencer à payer ton propre loyer sur Paris en plus, c'est clairement pas le truc qu'il fallait. Donc j'ai essayé community management pendant un certain temps et au bout d'un moment je me suis dit mais attends en fait je suis en train de manager le compte de certaines personnes, pourquoi je peux pas le faire pour le mien? Et donc bah, on s'est posé et on a commencé doucement mais sûrement quoi.
Petite histoire, tu es la première personne à avoir acheté mon e-book Pinterest en 2017. Tu as été ma première cliente. Est-ce que tu te rends compte? Je suis tellement fière, on n'était même pas copines à ce moment-là, on se connaissait pas,
c'est
tu vois.
C'est ouf hein.
C'est incroyable. J'y pensais quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit, mais attends, en fait, on se connaît depuis trop longtemps. Genre, tu vois.
C'est toujours ouf. Croire en tout le monde, toujours croire en tout le monde, parce que regarde, en attendant, tu vois le chemin que t'as fait. Et même moi, tu vois, j'aurais jamais pensé que t'aurais fait tout ça depuis, même si à l'époque, je me suis dit, punaise, en fait, son e-book, il a grave changé toute ma vision de Pinterest et toute la manière dont j'utilise le truc qui est plus uniquement des boards où j'enregistre mes petites bêtises à gauche à droite,
ouais.
Tu vois.
Ouais, ouais. Non, mais c'est cool, en tout cas. Bon, est-ce que ça te manque le journalisme? Est-ce que c'est un truc que t'aurais kiffé continuer?
Ouais, totalement. Et c'est pour ça, je pense aussi que, tu sais, sur ma chaîne YouTube, j'essaye justement de diversifier vraiment le contenu parce que c'est quelque chose que j'adorais. Donc moi, je sais que si j'avais le choix, là, une petite baguette magique, j'y retournerais, ouais.
Alors, t'es sur Instagram, je crois, depuis... Enfin, en tant que créatrice de contenu, depuis 2016 ou je me trompe?
Waouh, très très bonne question, en fait.
Ouais, bon, depuis très longtemps, quoi. Genre au moins 5 ans. En fait, c'est ton job de community manager qui t'a amené à te dire bah, « En fait, je vais le faire pour moi ».
Ouais, ça m'a amené à me le dire parce que aussi d'autres personnes avaient implanté cette graine dans ma tête. J'avais quelques potes qui commençaient à me dire « Mais en fait, faut que t'arrêtes parce que t'as pas le temps pour ton taf, t'as pas le temps pour tes réseaux. Au bout d'un moment, faut choisir quelque chose et c'est bon. Enfin, on n'a pas 45 ans, 3 enfants, 25 crédits derrière nous. Donc, c'est le moment justement de prendre des risques. » Et donc, bah, juillet 2019, c'est là où j'ai tout plaqué. Je me suis dit « Bon, allez, c'est parti. »
T'as eu chaud ou pas?
C'est l'heure, là.
Est-ce que t'as eu chaud?
Hyper chaud. Juillet, août 2019, mais même si financièrement, en fait, ça allait, parce que je me dégageais déjà plus qu'un salaire par YouTube uniquement, tu vois, mais j'ai eu chaud, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer.
C'est vrai. YouTube, tu l'as commencé en 2018 ?
Ouais, tout à fait.
Ok, et donc en 2019, tu vivais déjà, t'avais déjà un revenu de cette plateforme ?
Ouais, depuis quelques mois, bah, avant que je décide vraiment d'arrêter, parce que j'avais eu la chance justement d'avoir une ascension quand même assez rapide, d'avoir dépassé les 100K assez rapidement, ce qui fait que au niveau des revenus, que ce soit sur la pub ou les vues, c'était devenu confortable hyper rapidement. En vrai, en un peu plus de 6 mois, j'étais déjà à plus de 1200-1300 euros par mois sur l'AdSense, donc ouais.
Ah ouais, c'est pas mal du tout. Mais alors, moi, je suis restée à la rémunération YouTube AdSense de 2015 ou peut-être je sais pas quand, qui était de 1000 vues, 1 dollar. Mais je pense que ça a bien changé depuis. Et comment ça fonctionne, la rémunération sur YouTube ?
Alors, ça a totalement changé aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, parce que dans un premier temps, ça dépendra, tu sais, de ton type de chaîne. Donc, une chaîne comme la mienne, où tu as des contenus hyper diversifiés, comme une chaîne comme celle de Lena Situation ou Squeezie, c'est celles qui sont les mieux rémunérées sur les pubs. Okay. Parce qu'en fait, on peut avoir tout type de pubs qui passent dans nos encarts. Donc, après ça, tu choisis toi aussi maintenant le nombre de pubs que tu cales sur tes vidéos. Donc, plus il y en a, plus tu seras rémunéré, mais plus ça énervera aussi ton audience, ça faut en être conscient derrière. Et bien entendu, il y a aussi les vues, il y a aussi ton classement dans le classement des tendances qui influe sur plein de choses. Donc en fin de compte, on ne sait plus du tout qu'est-ce qui fait qu'on est payé de quelle manière. Plus du
D'accord. tout. En fait, tu as un taux qui varie, c'est ça ?
Exactement.
Okay.
Ouais.
Et c'est au coup par mille ?
Ouais.
Toujours ?
Ouais, okay, ouais, okay. Apparemment.
D'accord. Ok, bon, c'est intéressant. Mais ouais, c'est assez incertain parce que tu peux avoir un grand pic... Comme tu peux avoir, je pense qu'avec le confinement et tout, ça a dû impacter le premier, en tout cas, les revenus de vos pubs, non ?
Bah, en fait, on pensait tous qu'on allait être riches pendant le premier confinement. Parce que...
Moi, je pensais dans l'autre sens. Tu vois, je me disais que ça a dû baisser en termes de rémunération.
Bah, ça a été ça, parce que justement, on avait tous le temps de faire grave du contenu et on avait le temps d'avoir notre audience qui était hyper connectée. Donc derrière, bah, YouTube, Google, ils sont assis, ils ont dû se dire, bah, on va diminuer en fait le coût de revient de chaque pub parce que c'est pas possible, on va pas pouvoir suivre derrière. Donc on a tous pris une grosse claque. En général, on a perdu 30 à 40% de nos revenus mensuels de base. Ouais.
Ah ouais, c'est énorme.
Ça, énorme, c'est... énorme. Ouais.
Qu'est-ce que YouTube, selon toi, qu'est-ce que YouTube t'a apporté de plus qu'Instagram ? Parce que j'ai l'impression que c'est quand tu as lancé ta chaîne YouTube que ça a vraiment décollé pour toi. Je pense que ça réside principalement dans le fait que la vidéo, c'est un contenu qui marche beaucoup mieux qu'une simple photo sur Insta ou peut-être des stories. On en parlait juste avant avec le fait que moi aussi maintenant je fais des stories vidéo, je fais des lives et tout, parce que c'est un contenu qui marche bien au final. Donc...
ça, je pense que c'était le gros booster parce que comme tu disais justement, c'est la différence avec la photo du post Insta, enfin même si tu fais une vidéo en post Insta ou même en IGTV, hein, ce sera jamais la même chose parce que j'ai l'impression que tu sais sur Instagram il y a ce besoin que ce soit beaucoup plus lisse. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi, mais Twitter comme YouTube, ils ont ce côté-là où tu peux être très cash, tu peux être très brut de décoffrage et ça gênera pas, bien au contraire justement. Alors que sur Insta, si t'es comme ça, très souvent tu seras un peu en décalage. Donc ouais, YouTube, ça a été, tu sais, la plateforme de la liberté en gros.
Et comment t'as choisi ta ligne éditoriale ? Parce que, ok, tu fais des contenus très variés, tu parles de beauté, tu parles de mode, tu parles d'actu, mais t'hésites pas aussi à prendre position. Et t'as pas eu peur de justement d'affirmer tes pensées, tes valeurs et ce genre de choses ?
Non, jamais, parce que ça, je pense que justement, le master en journalisme, l'air de rien, il a beaucoup travaillé sur ce côté-là, parce que tu sais, tu passes toutes tes études à entendre que t'as une voix. C'est pas pour rien, c'est pour justement exprimer ton opinion. Et donc en fin de compte, c'était ça le but, c'était de me dire, bah j'ai quelque chose à dire, j'ai un moyen de le dire qui en plus me coûte trois fois rien, donc autant le dire. C'était vraiment juste ça.
Et comment tu gères les personnes malveillantes, les haters et tout ? Parce que enfin, je suis pas sur YouTube, mais j'imagine que personnellement, ça me toucherait, tu vois. Donc comment tu gères, toi ? Après, t'as de l'expérience aussi, parce que ça fait quand même un petit moment que t'es sur YouTube. Mais voilà, comment tu gères un peu ces choses-là ?
Bah au début, très très mal. Au début, c'était... tu sais, tu mets ton ordi dans un coin, tu vas verser 2-3 larmes quand tu vois des insultes, parce que t'as l'impression que c'est vraiment pour toi, sauf que très vite, j'ai compris que mais la personne en face, en fait, elle me connaît pas. Elle juge par rapport à ce qu'elle voit, ce que j'ai monté, ou un sujet, ça se trouve, qui l'affecte, ou une star qu'elle aime trop et dont elle veut rien recevoir de négatif. Et donc, doucement mais sûrement, tu prends du recul. Puis aussi, tu télécharges une application qui s'appelle Bodyguard, sur laquelle tu mets justement bah, tous les mots que tu ne veux pas retrouver dans tes commentaires, donc tu ne les vois plus jamais. Et en fin de compte, ça devient hyper routinier. Bon, tu vois du négatif, mais tu sais que c'est quelqu'un qui est derrière son écran, c'est pas en face. Et la personne, elle n'aurait pas agi comme ça si elle t'avait croisé dans la rue.
Ouais, c'est tout un process, hein. Faut l'accepter. Je pense que ça se fait pas automatiquement, mais tu peux finir par y arriver. Comment tu gagnes ta vie aujourd'hui ? C'est quoi tes sources de revenus ?
Alors, la plus constante, je dirais que c'est AdSense de YouTube, parce que t'es jamais trop sûr pour les partenariats. Donc là, en général, en moyenne, je tourne entre 1800 et 3000 euros sur AdSense uniquement.
Tu mets combien de vidéos par mois ?
J'essaye, même si là j'ai un tout petit peu ralenti parce que la flemme m'a prise hein, de course comme ça, mais j'essaye une par semaine, donc 4 par mois en général. 5 ou 6 si jamais je suis en forme, mais au moins 4 par mois.
Ok, ouais, c'est déjà pas mal, hein.
Ouais, c'est déjà pas mal de travail aussi.
Donc en plus de YouTube, t'as quoi d'autre comme revenu ?
Bah sur YouTube même, en plus t'as les partenariats, donc les mises en avant, ça peut être soit bien sûr placement de produits, ou mise en avant d'un service, d'une appli, ou de plein de choses. Et derrière, bah il y a Instagram, et Instagram, bah c'est celui qui fluctue le plus, hein, parce que tu peux avoir un mois où t'auras que 2 partenariats story qui vont te rapporter au total genre 1000 euros, et le mois d'après, ça se trouve, t'auras 10 partenariats, et tu vas te faire 8 ou 10 000 euros sur Insta. Donc ça, c'est hyper instable, hyper hyper instable.
Comment tu choisis tes partenaires, les marques avec lesquelles tu vas travailler ?
Le plus dur, parce qu'il faut faire tout un travail de fond, entre guillemets, pour pas tomber dans le piège de certains, surtout si c'est sur ce qui est des produits, pour être sûr de l'origine de ceci, justement, ouais. Et pas se prendre un backlash monstre. Mais donc déjà, ouais, des marques qui sont safe, qui existent vraiment, qui ont déjà une vraie clientèle, pas un truc très chelou. Et puis aussi des marques qui me ressemblent, en fait. J'aime bien, tout bêtement, avoir des partenariats avec des marques auprès desquelles j'achète depuis longtemps. Ça semble bête, mais au moins, c'est comme ça, je pense, que tu vends le mieux une marque. C'est si tu la connais pour de vrai et si tu aimes ce qu'elle propose, quoi. Que ce soit une marque ou un service, hein. Ça peut être pour tout.
Carrément. Et comment t'as appris à fixer tes tarifs en matière de partenariat ? Parce qu'en vrai, il n'y a pas de guide, tu vois. Donc s'il y a des gens qui veulent faire des collabs avec des marques. Et ça, je pense que ça vaut pour tout, hein. Pas seulement pour les créatrices de contenu comme toi qui sont aussi sur YouTube, parce que moi aussi, on me propose des collabs, mais pour des trucs liés à ce que je fais, tu vois, genre des claviers d'ordinateur, des bureaux, des machins. Bon, j'accepte pas pour l'instant parce que je me dis j'ai la flemme, j'ai déjà trop de choses à faire. Et du coup, comment tu fixes tes tarifs, tu vois ? Est-ce que tu le fixes par rapport au nombre d'abonnés ? Est-ce que c'est par rapport à ton engagement ou, tu vois ?
Franchement, là, j'essaie encore d'apprendre parce que je sais pas comment on fait pour fixer nos tarifs. Parce que justement, ça, le problème, c'est qu'on n'a pas de barème. Là, bah, tout bêtement, après, je vais tourner une vidéo sur justement bah, le pay gap qu'il y a entre les influenceurs, donc ce problème qui est ultra récurrent. Et je suis tombée sur des tableaux que certains médias américains ont. Et par exemple, pour une personne qui a mon nombre d'abonnés sur Insta, donc on est à 91 000, par post feed, je devrais faire payer 2 000 $. Sauf que moi, je fais payer quelque chose comme 1 000 €. Donc je suis à la moitié, quoi. Ce qui fait que j'essaie de le faire au lance-pierre, j'essaie de demander aux gens à gauche, à droite, comment eux ils font, qu'est-ce qu'ils mettent, et j'essaie de calculer par rapport à ça. Mais je sais toujours pas comment fixer mes tarifs. Je sais toujours pas. C'est hyper hasardeux et c'est aussi selon, tu sais, l'enveloppe que la marque ou l'agence a en face, quoi.
Est-ce que ça t'a développé des compétences de négociatrice, du coup, ce job?
Alors j'aimerais bien, mais toujours pas. Très souvent, c'est les agences et les marques qui gagnent. Donc, mais j'essaye. Là, 2021, c'est un de mes goals, justement. C'est de pouvoir enfin commencer à apprendre à me vendre, parce qu'en vrai, on est des forces de frappe, hein, sur les réseaux. On s'en rend pas du tout compte, mais on est des forces de frappe et il faut absolument que je l'apprenne. Absolument.
Mais c'est comme pour tout, hein, parce que là, on est dans ton cas, mais dans mon cas aussi, je travaille avec des entrepreneurs qui créent des offres en ligne. Et pareil, la question du prix, c'est difficile. Parce que tout le temps, en fait, c'est souvent, très souvent aussi, une question de confiance en soi. Et si t'oses pas dire que ton travail vaut tant, que la valeur que tu transmets c'est tant, bah c'est sûr que ça va pas forcément bouger, quoi. C'est à nous de prendre conscience des choses et de
totalement, parce que tu sais, t'as cette impression de manque de légitimité, en fait, parce que justement c'est du digital, que t'es pas sur un produit physique comme bah un iPhone, tu vois. T'as pas quelque chose de matériel entre les mains, donc c'est hyper hyper difficile à quantifier et de se sentir légitime par rapport à ce que tu fais et de pouvoir mettre un prix en face de ça, quoi.
Est-ce que tu l'as ressenti, toi, le gap qu'il y a? Parce qu'on a vu récemment que les influenceuses de couleur, ben notamment noires, étaient beaucoup moins payées que les influenceuses caucasiennes. Est-ce que c'est quelque chose que toi t'as ressenti, que t'as vécu peut-être?
Ouais, j'ai été au courant en tout cas que deux fois, parce que c'est que deux fois où sur des campagnes, c'était qu'en beauté en plus, étrangement, où j'ai demandé bah, des personnes à côté en fait combien elles étaient rémunérées, et où on m'a enfin répondu, parce que tu sais, très souvent les gens ils essaient de noyer le poisson, parce que ouais. Bon, par les chiffres ça dérange beaucoup en général, mais où je me suis rendu compte que ah bah en fait c'est un peu bizarre, parce qu'on a genre 2000 abonnés de différence, j'ai plus d'engagement et je suis payée enfin moitié moins. Donc derrière, après, quand on parle à la marque, on te sort des excuses et puis on change ta paye, y a pas de souci, mais sauf que tu te dis, mais c'est arrivé combien de fois quand j'étais pas au courant, en fait, c'est ça le problème.
Ouais, mais je trouve ça tellement bien qu'il y ait quelqu'un qui le, en fait, si tu veux, c'est pas qu'on s'en doute, mais on est, enfin moi j'ai pas été choquée, tu vois ce que je veux dire, c'est triste, mais j'ai pas été choquée quand j'ai vu cette info.
Totalement.
Donc ouais, c'est un truc qui est dommage, et qui, j'espère en tout cas, que ça va faire changer les choses, le fait que maintenant ce soit mis en avant publiquement, tu vois, et que ça va avoir des rémunérations, mais c'est compliqué. Je voulais parler de pression avec toi. Est-ce que tu ressens une certaine pression dans le milieu dans lequel t'es? Parce que c'est beaucoup les apparences. On va pas se mentir, le physique joue beaucoup, faut être un peu bien sur soi. Est-ce qu'il y a une certaine pression déjà sur le physique et la façon d'être, mais aussi dans la sphère dans laquelle tu es par rapport aux autres créatrices de contenu?
Ah oui, non, mais il y a une pression tous les jours, c'est tous les instants. Ceux qui te diront le contraire, en général, c'est les personnes qui justement font partie de, entre guillemets, cette élite, donc qui nous met la pression même sans le vouloir. C'est Instagram comme YouTube, t'es sûr de l'image. Donc on va te juger dans tous les cas. Ce qui fait que tu as envie que cette image soit la meilleure possible, que ce soit ton comportement, donc ça peut être vis-à-vis de tes achats, surtout maintenant par exemple, depuis qu'on est au courant de tout ce qui se passe au niveau des Ouïghours, t'as plus envie de parler du petit haut que tu t'es acheté chez Zara, ou des lunettes de soleil qui viennent d'AliExpress, tu vois. Donc déjà il y a ça, ne serait-ce que sur un comportement basique d'acheteur, puis après il y a sur ton apparence, et ça c'est tout le temps. Moi je vois par exemple à la fin du mois, il y a l'office de tourisme à Zanzibar qui m'invite, je vais y aller, je suis contente, mais je sais que je serai en maillot de bain. Donc je sais que je vais poster ces photos-là, et là je suis en train de me dire, ok, faut que je mange bien avant d'y aller, ok, faut ci, faut ça, alors que en fait, il n'y a rien qui m'y oblige, mais c'est le traitement et le filtre des réseaux sociaux qui te change et change ta manière de te voir et de te comporter, ouais, totalement une pression.
Ouais, mais ce qui est bien, c'est que toi, tu surmontes cette pression, parce que les photos que tu mets de toi en maillot de bain ou en lingerie, on voit qu'elles ne sont pas retouchées. Ouais. On voit tes taches, on voit tes vergetures et tout. Ça, c'est un kiff. Franchement, tu vois, si j'avais eu ça quand j'étais plus jeune, je me serais dit, ok, c'est normal, tout ce que j'avais sur mon corps. Mais c'est vrai que c'est pas automatique, quoi. Et c'est dommage que tout le monde ne le fasse pas.
Exactement, surtout que, enfin, je sais pas, c'est quelque chose, pourtant, t'es un être humain. Je vais même pas appeler ça des défauts, parce que c'est pas des défauts, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on voit ça comme des défauts, alors que, genre, c'est ton corps qui vit, que ce soit une prise de poids, une perte de poids, une tache, un bouton, une vergeture, enfin, ton corps vit, et je trouve ça fou que, justement, on ait tout ce prisme-là, à cause d'Insta, majoritairement, qui fasse que, non, il faut que tu sois lisse, il faut que, absolument, il y ait rien qui détonne, c'est anormal, anormal.
C'est clair. Mais du coup, tu pars à Zanzibar combien de temps? La chance.
Pendant 9 ou 10 jours, je ne sais plus précisément. Mais
ah,
9
c'est
ou
bien.
10 jours. Ouais, j'ai hâte.
J'ai hâte de voir le contenu que tu vas mettre en place. Bon, Petite question, Instagram, ensuite YouTube et ensuite un peu de toi et de ton organisation. Est-ce que tu as des conseils pour développer sa visibilité sur Insta? Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour toi en tout cas?
Ça a beaucoup fonctionné en lien avec YouTube. Donc en général, ce que je conseille, c'est d'avoir une autre plateforme. Je sais que pour toi, par exemple, ça a été ton blog. Les deux ont beaucoup fonctionné l'un en lien avec l'autre. Il y en a, c'est Twitter et Insta. En général, on aime bien connaître quelqu'un sous différents prismes. C'est cool de voir qui il est sur différents réseaux parce que on ne communique mais pas du tout de la même manière sur tous nos réseaux. Donc ça déjà, je trouve ça super cool de pouvoir utiliser Internet autant qu'on peut. Ça semble hyper bête, mais voilà, tu payes ton abonnement tous les mois, autant l'utiliser. Et juste de mettre en avant ce que t'aimes en fait. Tout simplement. Si comme moi, c'est juste parler, raconter plein de choses, autant que soit ça. Si c'est donner des conseils beauté, autant que soit ça. Mais vraiment aller à fond sur le truc ou les trucs qu'on aime. Mais pas trop s'éparpiller non plus par contre. Ça aussi, c'est important.
Et YouTube, du coup, parce que YouTube, c'est un... Je pense que c'est une plateforme sur laquelle beaucoup vont s'investir cette année. Encore une fois, pour le format vidéo et le fait que ça te laisse aussi... En termes de créativité aussi, c'est bien, tu vois, t'es pas limité. Tu peux faire plein de choses. Donc, est-ce que t'as des conseils pour développer une chaîne YouTube? Parce que la chaîne, c'est vrai qu'elle a plutôt bien démarré.
YouTube, le premier conseil, c'est d'avoir sa ligne édito. Parce que la plupart des gens qui commencent, ils vont commencer par mes unpopular opinion et après il y aura un FAQ et après ci, après ça, donc ils vont aller un peu dans tous les sens. Mais il faut commencer dès le début en fait avec ce que tu veux. Si tu veux de la beauté, commence par de la beauté. Si tu veux du talk ou de l'info, commence par ça direct. Et bien sûr, la constance de publication. Parce qu'en général, les gens ils commencent avec 3 vidéos le premier mois et après pendant 4 mois on les voit plus. Et après, ils reviennent, et après, on les voit plus. Faut être constant. Faut être constant parce qu'il faut accrocher les gens. Et ne pas se soucier des chiffres aussi au début. Parce que tu peux avoir l'impression que tu travailles pour rien, alors qu'en fin de compte, si t'as 100 spectateurs sur une vidéo, c'est 100 êtres humains. Et on n'a pas l'impression, mais 100 personnes, enfin, ça remplit tout un bus quand même.
Ouais.
c'est même absolument jamais rien.
Ouais.
Voilà.
Ouais, non,
donc, ne pas trop se fixer sur les chiffres. Ce qui doit arriver, arrivera. Et de base, on est là surtout pour partager du contenu. On n'est pas là pour uniquement avoir des abonnés, quoi.
Est-ce que tu travailles aussi ton référencement, parce qu'il me semble que YouTube c'est un peu une sorte de moteur de recherche, bon ça appartient à Google et ça fonctionne aussi un peu de la même manière, est-ce que toi tu soignes tout ça ou tu fais vraiment au feeling, genre est-ce que les titres de tes vidéos sont précis, est-ce que tes vignettes sont faites d'une certaine manière, tu vois, est-ce qu'il y a toute une stratégie aussi là-dessus pour donner envie aux gens de cliquer?
Ouais, j'essaye la plupart du temps parce que c'est Squeezie, il y a peut-être 1 ou 2 ans, qui avait expliqué ce qui marchait le mieux au niveau des vignettes. Entre autres, d'avoir soit des gros titres ou des gros insignes en rouge ou en blanc parce que c'est ce qui accroche l'œil directement. De pas hésiter à pas en faire trop, on va dire, mais en tout cas prendre l'élément central et à décupler ça sur la miniature, pardon.
Ouais.
Mais au niveau des titres, je t'avoue que moi, je reste encore vraiment très flou. C'est hyper au feeling. Mais après, je sais que... tu peux essayer de faire des trucs au niveau de la description pour référencer, mais il faut que je me penche là-dessus parce que je t'avoue que j'ai encore jamais regardé ce que ça donnait. C'est que sur les miniatures.
Ouais. Mais comme quoi, c'est pas indispensable non plus, ça veut dire, pour développer une communauté sur YouTube, quoi. Est-ce que tu te rends compte de l'audience que t'as ? Parce que moi, je te connais depuis longtemps, genre limite, j'allais dire quoi.
Exactement.
On était rien, enfin, on est toujours personne, mais on était encore moins personne. Et là, aujourd'hui, t'as une communauté
personne.
Qui est énorme, qui est ultra, ultra engagée. Est-ce que tu prends conscience de tout ça ? Est-ce qu'on t'arrête dans la rue aussi ? Je me suis posé la question. Genre, on te reconnaît ? Ouais ?
On m'arrête maintenant, quasiment à chacune de mes sorties, t'auras au moins une personne qui va m'arrêter. C'est quelque chose. C'est comme ça, en fait, que je me suis rendu compte des personnes qui me suivent. Parce qu'avant, tu vois que des chiffres. Et les chiffres, c'est pas des êtres humains. Mais c'est la première fois où, il y a 2 ans, je m'en rappelle, j'étais à un festival à Wheel of Green. Et que sur la même après-midi, t'as une 20aine de personnes que je croise qui m'arrêtent. Soit pour prendre un selfie avec moi, soit juste pour me dire qu'ils adorent ce que je fais. Et t'es là en train de te dire quoi ? Mais attends. Donc il y a des vrais humains, en fait, qui me suivent et ils savent qui je suis. Et ils me reconnaissent et tout. Donc ouais. Maintenant, je prends vraiment conscience. Même si, encore une fois... C'est que des chiffres pour la plupart parce que j'ai pas croisé tout le monde, hein. Mais ouais, on commence vraiment à prendre conscience.
Donc t'es pas arrivée à ce stade où c'est entre guillemets dérangeant dans certains cas, parce que je vois souvent ça quand je regarde des vidéos sur YouTube où les mecs ils sont à table, enfin ils expliquent qu'ils sont en train de manger en famille et t'as des gens qui viennent leur dire hey, je veux une salut, on peut faire une photo, toi t'es pas encore à ce stade là.
Heureusement, ça n'en est pas encore là. Franchement, et même mes abonnés, franchement, ils sont hyper bienveillants parce que plusieurs fois, je reçois des DM en me disant « Oui, j'ai vu que t'étais au resto quand je suis sortie, je voulais pas oser te déranger et tout. » Donc, j'ai une communauté là-dessus, justement, qui n'ose pas faire des choses comme ça et je les remercie beaucoup.
Elle a quelle tranche d'âge, ta communauté ? Parce que du coup, elle est éveillée. Si elle vient pas t'embêter pendant que tu manges, c'est pas des enfants, quoi, a priori.
Bah, en fait, il y a de tout. Les plus jeunes que j'ai pu croiser, ils devaient avoir peut-être 14-15 ans. Mais sur la tranche majoritaire, elle a à peu près mon âge. Donc, elle tourne entre 25 et 30. Et des fois, je suis étonnée de voir qu'il y a des adultes, genre des parents. Par exemple, j'ai un de mes voisins qui a la quarantaine. Voire, ouais, 40-45, il suit une vidéo. L'autre jour, c'était un monsieur qui travaillait sur un chantier. Qui m'a arrêté en me disant « Ah, mais vous êtes la demoiselle qui fait des vidéos sur YouTube !» Il avait la cinquantaine. J'étais en train de me dire « Eux aussi ?» Donc en fait, il y a de tout. Il y a de tout.
Ça, c'est fou. Quand tu penses, tu dis qu'il y a des gens comme ça, ils sont chez eux, ils prennent le temps de regarder tes vidéos et tout, c'est trop marrant. Mais est-ce que du coup, tu fais attention à ce que tu transmets sur le web en sachant que t'as des gens potentiellement jeunes, tu vois, dans ton audience, ou est-ce qu'au contraire tu te dis c'est à leurs parents de faire le tri, ou à 12 ans t'as pas à être sur Insta, ou je sais plus si c'est 11 ans à la limite, tu vois, comment tu gères les choses, est-ce que tu restes toi-même ou tu fais attention?
Je crois même que c'est 13 ou 14 pour Insta, c'est juste qu'avec le temps en fait c'est devenu n'importe quoi. Bah, j'essaye de faire attention tout en me disant aussi que les parents sont censés faire un travail. Pour, par exemple, ces temps-ci, j'ai lancé une rubrique maintenant sexo sur la chaîne YouTube. Je commence par un disclaimer en précisant que sur telle vidéo, je considère que le public qui a moins de 14 ans n'est pas censé suivre ce sujet-là. Je fais mon disclaimer, mais après, dans tous les cas, si la personne veut continuer la vidéo, il n'y a rien qui va l'en empêcher. Mais de manière générale, j'essaye quand même de faire en sorte de ne pas être trop choc, ou en tout cas, par exemple, de ne pas utiliser des visuels qui puissent choquer pendant des vidéos ou même sur Insta, pour me dire quand même le soir que je dors avec une bonne conscience, on ne sait jamais.
J'avoue. À quoi ressemblent tes journées ? À quoi ça ressemble les journées de Manon, mais d'une créatrice de contenu et youtubeuse surtout, en fait ? Je me demande par rapport à la production de contenu, est-ce que tu fais en sorte de prendre l'avance ? Combien ça te prend de temps de faire une vidéo, par exemple ? Tu vois, ce genre de choses. Comment tu t'organises ?
Franchement, ça dépend des périodes. Là, actuellement, par exemple, ces temps-ci, je sais que mon réveil sonne quasiment tous les jours à 9h30. Comme ça, je prends le temps de vivre. Commence par une petite séance de sport.
Attends, t'as changé, hein ?
Oui, j'ai changé.
9h30, c'est tôt pour toi ?
C'est tôt pour moi. Même 9h aujourd'hui, attention.
Ah ouais, c'est... qui êtes-vous ?
Non, mais oui, avant, c'était plutôt 11h, 11h30. Hein.
Voire 14h, on va pas se mentir. Là,
Ah, mais oui. Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte que tu finissais absolument pas ta to-do list, hein, mais clairement pas, c'est impossible. Mais ce qui fait que ouais, maintenant, j'essaie de me dire vers 9h, 9h30, comme ça, t'as quand même dormi, mais tu prends le temps de vivre doucement. Je commence toujours la journée avec du sport, sinon, je sais pas, j'arrive pas à me réveiller. Première chose, c'est les mails, parce qu'il y en a toujours trop, vraiment trop. Et comme ça, après les mails, si jamais j'ai une vidéo à tourner comme aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai continué à écrire mon script, vu que je le commence toujours, soit quand je suis dans le métro, soit quand je suis à moitié en train de faire un truc, juste quand je mets mes grandes lignes pour pas oublier ce que j'ai en tête.
C'est une liste à puces ou c'est vraiment détaillé
Je commence par une liste à puces, okay. Et après comme ça je la reprends, comme ce que j'ai fait ce matin, et là vraiment j'ouvre internet à côté pour avoir toutes mes données chiffrées, mes dates et les mots-clés dont j'aurais vraiment besoin, si par exemple il y a des termes techniques à utiliser. Et donc après ça, bah, bien sûr tournage. Le tournage, c'est le plus simple, hein. Avec l'habitude, dans tous les cas, tu prends en général 30-40 minutes de vidéo. Et vient le montage, ça c'est le moins rigolo. En général, pour monter une vidéo, si je me dis que je veux un résultat en monter à une petite dizaine de minutes, ça va me prendre 2-3 heures.
Waouh !
Si c'est une dizaine de minutes. Donc si c'est plus long, le montage sera beaucoup plus long. Je sais que le plus horrible que j'ai eu jusque-là, je crois que j'ai mis peut-être une dizaine d'heures au total.
C'est l'enfer. Tu délègues ou pas du tout ?
Pas du tout, parce que pour l'instant, j'y arrive pas en fait. Même si je sais que prendre un monteur, ce serait une très très bonne idée, parce que ça peut aider justement à battre beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup plus de travail. Je pourrais tourner 3 vidéos dans une même journée, comme ça, ils me les montent dans la semaine. Mais j'ai peur en fait que la personne ne réussisse pas à tout faire comme je l'ai dans ma tête. C'est le problème.
Oui, je relate, tu vois, c'est l'histoire de ma vie, mais j'ai appris que de toute façon, ce ne sera jamais fait comme ce que nous on fait.
Voilà.
Donc il va arriver un moment où tu ne pourras plus faire tout ce que tu fais à l'heure actuelle et tu seras obligé, tu vois, donc ce sera peut-être le déclic pour toi, mais effectivement, je rejoins totalement sur cette croyance de « ce ne sera pas fait comme moi je veux que ce soit fait
». Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut que je le fasse, parce qu'à côté, il faut aussi que je crée le contenu pour Instagram.
Ouais.
Ça aussi, ça prend du temps. Là, par exemple, je sais que j'ai 3 posts sponsors que je dois prendre en photo, et ça fait 2-3 jours que je suis en train de me dire « ah, faut que je le fasse aujourd'hui, ah, faut que je le fasse aujourd'hui ». Et je fais que repousser parce que j'ai des vidéos que je monte, donc ouais, ça c'est un truc qu'il faut que je fasse et que je délègue absolument.
Comment tu trouves l'inspi pour tes publications sponsorisées du coup ? parce qu'il faut que ce soit un peu différent, puis ça doit dépendre aussi du produit. Donc moi, je me souviens que quand j'étais dans ce milieu-là, c'était dur, c'était la partie la plus dure pour moi, de trouver comment mettre en scène tout ça.
Pourtant, tu y arrivais super bien, punaise, tes photos, elles étaient toujours super top. Donc pour le coup, je me dis, ok, si même Safia galérait, c'est super.
c'est pas l'image que j'en avais, mais merci beaucoup.
Mais oui, c'est, de toute manière, c'est toujours, toujours galère. Le plus simple, bien sûr, ce sera si c'est du vêtement ou de la chaussure. Ça, c'est le plus simple, parce que tu t'habilles, tu prends une photo, c'est fini. Mais si c'est un produit à présenter, bah, par exemple, je l'ai juste à côté de moi, ce temps-ci, c'est avec Uriage que j'ai un partenariat sur le long terme, c'est un peu plus difficile à inclure sans que ce soit juste une photo du produit. Donc ouais. D'abord, je vais tourner en général sur les comptes Instagram des marques pour voir à peu près ce qu'ils aiment bien, eux aussi, comme contenu pour mettre en avant leurs produits, parce que j'aime bien que ça puisse coller et pour moi, mais aussi pour eux, parce que l'air de rien, bah, c'est un contrat qui a été signé quand même. Ouais. Et donc après ça, moi, je regarde par rapport à tout ce que j'ai sous la main et ce que je sais faire, comment ça peut le mieux rentrer en corrélation et vraiment coller. Mais donc, c'est pas mal de fouilles quand même avant de prendre ne serait-ce bah, ce qui semble être une seule photo pour les gens, en fait.
Ça te prend combien de temps à peu près, t'as une idée ?
En vrai, niveau fouille, ça peut me prendre 30 minutes à une heure. Prendre la photo, ça, c'est le plus long parce que avec tout le set que j'ai, si je fais ça toute seule, ça peut prendre jusqu'à 2 heures pour une seule photo. Pour une seule photo, pour aimer le résultat. Donc, au total, si j'arrondis avec les retouches derrière, tu peux avoir 3 heures pour une photo, quoi.
Ouais, là, tu fais tomber plein d'espérances, je pense. Enfin, de mon côté, en tout cas, concernant YouTube, parce que c'est un des projets que j'ai pour cette année. Et je me suis fixé mon anniversaire, donc le 7 avril, retenez bien cette date, pour lancer ma chaîne. Et maintenant que tu me dis le temps que ça prend, je me dis soit je délègue direct, soit je fais en sorte de prendre tellement d'avance que j'aurais que ça à faire, tu vois.
Ah non, mais si tu prends de l'avance, en vrai, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je sais que les journées où je me posais pour tourner 3 vidéos, le lendemain, je mets mon casque, personne ne me parle, aucune notification, je ne fais que du montage pendant toute la journée de 9h jusqu'à 22h, juste pour boire de l'eau et faire pipi, que tu peux faire des breaks. Mais là, c'est les jours où tu te rendais compte que waouh, en fait, c'est hyper efficace. C'est comme ça, t'as toute la semaine où t'es comme ça. Tu fais ce que tu veux le reste de la semaine. Mais il faut avoir la niaque, il faut l'avoir.
Ouais, il faut vraiment être sûr que c'est ce que tu veux, quoi. Mais en fait, c'est comme pour tout, hein. C'est comme le podcast, hein. Mine de rien, ça demande aussi beaucoup de travail. Et si t'es pas prête à le faire, ça sert à rien de. Il y a beaucoup de montage aussi, tu vois. Déjà, toute la partie enregistrement, parce que tu parles en fait. Pendant 20-30 minutes, c'est dur, hein, mine de rien, de parler tout seul pendant aussi longtemps. Donc, tu vois, il y a tout ce travail à faire. En plus, tu dois le monter, tu dois programmer. Enfin, voilà, quoi. C'est vrai que c'est...
Ah ouais, non, les gens ne se rendent pas compte. Hein. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui se lancent et qui, en fait, abandonnent très vite. Parce qu'ils ont l'impression, entre autres, que le podcast, vu qu'on ne te voit pas, c'est moins de travail, mais pas du tout. C'est du montage, c'est des plateformes qui sont différentes. C'est tout un tour de main à prendre. Donc, ouais, c'est du taf aussi. Hein.
C'est clair. Est-ce que tu as des projets pour l'année ou pour les années qui viennent ?
Bah, c'est... Ouais, sur cette année, là, déjà, ce serait de lancer un format vraiment documentaire très carré et très, très bien sur la chaîne. Zanzibar, ça va être l'occasion justement de me lancer. J'ai prévu pas mal de choses intéressantes là-bas au niveau des rendez-vous avec pas mal de personnes justement. J'aurais aimé depuis novembre dernier créer un format avec des débats interviews sur la chaîne.
Ouais, je m'en souviens, t'en avais parlé.
Le problème, c'est que le corona t'empêche totalement parce que je vais pas dire à tout le monde de se faire tester. Et, c'est ingérable en fait, c'est hyper ingérable. Mais... quand ce sera passé, ou en tout cas un peu calmé, ça, ce sera le gros projet, parce que ça pourrait être cool qu'enfin je sois plus la seule à débattre sur la chaîne, en fait, qu'il y ait d'autres voix qui se ramènent. Donc ça, c'est le gros projet. Et après, j'attends de voir, parce que je me laisse un peu porter par le vent au niveau de mes idées, quand même.
Et tu te vois comment dans, genre, 5 ans ? Tu te vois encore faire ça, ce que tu fais aujourd'hui ? Genre, tu penses que ça te plaira encore et que... Parce que moi, je suis persuadée qu'il y aura encore des blogueuses, des youtubeuses et tout. Mais est-ce que toi, tu penses que ce sera encore un truc qui t'anime d'ici quelques années, ou ça risque de te lasser ?
J'ai peur que ça me lasse, justement. Je me dis que je vais me retirer avant que ça me lasse, faire d'autres choses, parce que moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est lancer mon propre média, justement. C'est un peu mon tour d'essai, on va dire, YouTube, justement, de voir si j'arrive à bien parler de pas mal de sujets différents et à captiver les gens, on va dire. Mais ouais, non, d'ici 5 ans, j'aimerais bien faire totalement autre chose. Ne serait-ce que pour moi aussi, niveau motivation, parce que sinon, tu restes que dans ce que tu fais. Tu restes dans ta zone de confort. Et je pense que c'est ça qui tue quelqu'un, en fait. C'est hyper difficile d'évoluer dans ta zone de confort. Il y en a très très peu qui savent le faire. Donc ouais, totalement autre chose, j'espère.
Ok, super. Je suis arrivée au bout de mes questions, alors. Merci beaucoup, Manon, pour ce temps et puis pour cette petite rétrospective. En fait, je trouve ça hyper intéressant de voir où on en est aujourd'hui, sachant où on a démarré et comment on a galéré au début et qu'on faisait un peu n'importe quoi, tu vois. Ouais, je me dis que c'est...
c'est fou, hein.
On a fini par y arriver, on a persévéré. C'est un beau message de persévérance, tu vois.
Exactement.
Faut pas abandonner, faut pas lâcher.
Bah merci en tout cas, Safia, c'était vraiment top.
Avec plaisir. J'espère que cet échange avec Manon vous aura plu et vous aura permis d'en savoir plus sur le travail des créateurs de contenu et des youtubeurs, comment ils s'organisent, comment ils font les choses. Personnellement, je trouve que c'est hyper intéressant. J'adore tous les métiers qui sont apparus grâce au web, donc voilà. Si vous avez envie de retrouver Manon, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, il suffit de chercher Daring Tia. De toute façon, je vous mettrai les liens directs dans les notes de l'épisode sur mon site internet. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes et ressources mentionnées sur le site mytrendylifestyle.fr. Et si vous souhaitez rejoindre une communauté d'entrepreneurs ambitieuses et déterminées, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Communauté Build Yourself.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.